Le texte que je propose à votre méditation se trouve dans l'évangile de Luc. C'est un texte très connu, au chapitre 10, les versets 21 à 20. C'est un texte assez surprenant qui est spécifique à l'évangéliste Luc. C'est-à-dire, vous le retrouverez ni chez Matthieu, ni chez Marc, ni chez Jean. Vous le retrouverez que chez Luc. C'est ce texte où Jésus envoie 70 personnes ou 70 personnes. Et selon les versions que vous avez 72 ou 72. Voilà. Donc, ce n'est pas une erreur, ça dépend des manuscrits, parce que voilà, il y avait deux courants dans le judaïsme, et un courant pensait 70 et l'autre 72, je vous expliquerai pourquoi après. Mais avant d'aller plus loin, je vous invite à entendre ce texte. Donc voilà, après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers ». Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et là, s'il se trouve un homme de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison. Mangez et buvez. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera. Car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison, mais dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, et bien mangez ce que l'on vous offrira. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Alors, ce que je vous propose ce matin, c'est envoyer quoi? Qu'est-ce que Jésus les envoie envoyer? Quel est le contenu finalement? C'est quoi ce cadeau qu'il les envoie envoyer? Puis pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils y aillent? Et puis finalement, qui c'est qui est envoyé? C'est quand même intéressant de pouvoir s'arrêter un petit peu sur ces gens. Et puis, comment est-ce qu'il faut y aller? Et je me dis, pour nous aujourd'hui, c'est peut-être ce qui est le plus intéressant, c'est comment savoir où aller et comment y aller. Et puis enfin, quel est le résultat que ça devrait porter? Et puis, j'aime toujours apporter quelques mots de conclusion. Alors, ça fait partie de mon schéma, donc vous aurez droit à quelques mots de conclusion. Alors, envoyer quoi? On est dans le monde de la communication et je trouve ça absolument extraordinaire. J'ai le privilège d'avoir un collègue, parce que comme je suis qu'à mi-temps à Poitiers, j'ai un copain qui est à mi-temps, enfin un copain qui est un pasteur quand même, qui est aussi à mi-temps, et lui c'est un spécialiste de la communication. Donc lui il est toujours sur Twitter, sur Facebook, sur tous ces trucs quoi. Puis alors c'est impressionnant quoi, il communique. C'est génial quoi. Moi, je suis un petit peu plus de peine. On n'est pas très, on a quasiment le même âge. Hein. Donc voilà. Mais la communication, c'est compliqué, quoi. Et il y en a qui ont une facilité à communiquer, puis il y en a d'autres, c'est plus difficile. Voilà. Alors, c'est important quand on communique d'être au clair, au moins sur le message. Qu'est-ce qu'il faut envoyer? Faut quoi? Alors, c'est assez surprenant parce que Jésus leur confie juste un seul message, qui est hyper simple. Et ce message, il est absolument magnifique. C'est « Le royaume des cieux s'est approché de vous ». Leur job, c'est ça. Franchement, ça ne coûte pas cher. C'est pas hyper compliqué, quoi. C'est « Le royaume des cieux s'est approché de vous ». Mais alors, ça veut dire quoi, cette histoire? Ça veut dire que le monde de Dieu a fait irruption dans notre monde. Alors vous dites, ouais, mais comme l'a rappelé Eric, il y a encore des catastrophes, il y a des mauvaises nouvelles, c'est vrai. N'empêche, le monde de Dieu a fait irruption dans notre monde. C'est-à-dire le monde qui est à l'origine de notre monde. C'est-à-dire le monde qui restera après notre monde. C'est-à-dire le monde de Dieu. Vous savez, dans tous les contes de fées, je ne sais pas si vous connaissez ces histoires, c'est toujours magnifique, il y a une princesse, et puis il y a une méchante sorcière, et puis il n'y a plus que... Elle met un mauvais sort sur le truc, là, et puis ça devient tout gris, il y a de la... Voilà, je crois, la Reine des Neiges, enfin, il y a de la neige, enfin, il y a du... Voilà, c'est compliqué, quoi. Hein? Et puis, alors, il faut chercher le prince charmant, ou il faut réveiller la princesse. Et puis, quand on va la réveiller, eh bien, le monde va revivre. Puis alors, si vous avez regardé Narnia, moi, j'en suis resté là, quoi. C'est magnifique. Tout à coup, il y a Aslan qui arrive, là, puis il réveille les animaux, puis il y a le soleil qui revient, et puis... il y a une irruption de quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Ce que Jésus est en train de dire à ces hommes qu'il envoie annoncer cette bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose de cette nature qui se produit quand il vient. Il y a quelque chose de cette réalité qui fait irruption dans notre monde. C'est dingue. J'imagine, vous savez, parce qu'à la fin du culte, il faudra faire un exercice pratique, donc il faudra y aller, donc il faut vous préparer mentalement, vous voyez. À la fin du culte, vous allez être invité à aller vers les voisins d'à côté, puis sonner, puis juste leur dire « Bonjour, le royaume des cieux s'est approché. Hein, » ils vont vous accueillir en disant « C'est super sympa, ça, et ça se passe comment ?» Vous avez un peu peur quand même, hein. Ben, c'est un peu quand même ça qu'il leur avait dit. Alors, vous savez, la grande différence, c'est que ces gens attendaient quelque chose. Les gens du temps de Jésus étaient dans l'attente de l'irruption du monde de Dieu. Et les disciples qui ont été envoyés ce jour-là ont été en prise sur la réalité de l'attente des hommes et des femmes de leur temps. Alors, c'est la première bonne nouvelle que j'aimerais nous redire ce matin, c'est que les hommes et les femmes de notre temps sont aussi dans une attente extraordinaire. Ils ont vraiment une attente. Et ils ont l'attente, à leur manière, que le royaume des cieux fasse éruption dans leur monde. Et on l'a oublié. Et on a oublié que le monde d'aujourd'hui, il attend autant que le monde d'hier. Et que cette extraordinairement bonne nouvelle, eh bien, elle reste d'actualité. Alors, la grande question, finalement, c'est, on voyait quoi ? On sait maintenant un message, mais alors pourquoi est-ce que Jésus les envoie maintenant et pourquoi ce message ? Alors, ce n'est pas la saison, hein, mais Jésus leur dit très simplement, je vous envoie parce que la moisson est prête. C'est-à-dire qu'il y a un moment dans l'histoire des hommes, dans le temps des hommes, qui est notre temps, où Dieu dit « c'est le temps pour que mon monde fasse irruption dans votre monde ». Et le temps est bon, le temps est propice, la moisson est prête. Alors, c'est hyper encourageant. C'est hyper encourageant parce que c'est lui qui le dit. Alors, je vous confesse que régulièrement, je dis au Seigneur, mais elle est où, cette moisson ? Et que je lui dis, tu ne peux pas me faire voir, s'il te plaît. Vous savez, il y a trois textes dans les évangiles où on parle de la moisson. Le premier texte, c'est dans l'évangile de Matthieu, je vous en ai parlé, je crois, il y a 2 ans quand je suis venu. Le second texte, c'est dans Luc. On en parle ce matin. Et le troisième texte, c'est dans l'évangile de Jean, dont on vous a parlé récemment, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris ce matin, c'est l'histoire de la femme samaritaine. Et c'est assez fascinant. Parce que chaque fois, Jésus, alors chez la femme samaritaine, c'est encore plus intéressant, parce qu'il prend à partie ses disciples, qui n'y comprennent rien, et il leur dit, mais regardez, les champs sont blancs. Alors, j'aime imaginer qu'il leur propose une image visuelle pertinente, c'est-à-dire que ça devait peut-être être la période de la moisson. Regardez les champs sont blancs. Et j'aime imaginer les disciples dire, bah, ils sont blancs. Mais bon, on n'est pas équipés, quoi. Vous voyez, c'est quand même le problème. On est juste disciples, quoi. Donc, la moisson, ce n'est pas notre truc, quoi. Et Jésus dit, c'est le moment de ramasser. Et vous savez, qu'est-ce que ça veut dire quand Jésus dit que la moisson est prête ? Ça veut dire qu'il y a une urgence. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant. Alors là aussi, moi, j'ai très, très peu de rapport à la terre. J'essaye d'apprendre, mais ça m'est compliqué. J'ai beaucoup de choses compliquées dans ma vie. Et j'ai ma femme qui m'aide pour ces choses. Donc, voilà, la nature est quelque chose d'extraordinaire. Quand c'est mûr, c'est mûr. Quand c'est pas mûr, c'est pas mûr. Logique. Mais quand c'est mûr et que vous laissez, ben, ça pourrit. Donc, si vous ne ramassez pas au bon moment, ben, c'est trop tard. Si Jésus est en train de nous dire « la moisson est grande », c'est que c'est le moment. Et qu'il y a une vraie urgence, parce que vraiment, c'est mûr. Et j'aimerais tellement nous encourager. Dieu met sur ma route des hommes et des femmes qui le cherchent, et je n'avais jamais imaginé qu'ils pouvaient le chercher. Et Je ne sais pas comment leur parler, parce que moi, je suis né dedans, vous savez, c'est comme Obélix, c'est tombé dedans, pouf, quoi. Donc vous avez votre discours, votre schéma, votre manière de faire, votre discours, voilà. Et puis eux, ils ont d'autres questions. Leur recherche, ce n'est pas la mienne. Leur manière d'avoir soif et faim, ce n'est pas comme moi. Alors quand on est à table, ça revient à la même chose. Avec l'Évangile, c'est la même chose. Au début, on se dit effectivement, tiens, ils ne mangent pas comme moi. Tiens, mais c'est bizarre ce qu'ils mangent. Bah. Puis petit à petit, on découvre que, tiens, mais non, quoi. Mais c'est intéressant, quoi. Ah bon, pas toujours. Mais quand même, souvent. J'ai découvert plein de bonnes choses en Béarn. Dieu permet que des hommes et des femmes aient faim aujourd'hui. Et ils sont une multitude. Et la moisson est prête. C'est pour ça qu'il les envoie. Il ne les envoie pas parce qu'il faudrait voir à préparer le chemin. Non, ça, c'était Jean-Baptiste. Maintenant, il envoie ces gens en leur disant « Non, 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 c'est bon, quoi. La moisson est prête. C'est le moment d'y aller. » Et j'aimerais le redire en France, je crois profondément que le moment est propice. Alors, qui doit y aller ? Alors, je trouve très intéressant, là, si vous comptez, vous en aurez 70 ou 72. Ça dépend comment vous comptez, si vous avez des bonnes lunettes ou pas. C'est une vieille représentation. Vous reconnaissez quelqu'un ? Vous ne connaissez personne dans le lot, hein ? Ben, moi non plus, donc ça tombe bien. Donc, c'est des inconnus pour chacun d'entre nous. Mais ils sont 70 ou 72. Et c'est interpellant parce que Jésus envoie 70 personnes comme ça, quoi, ou 72. Parce que pour les Juifs, c'était le nombre des nations païennes. Donc, suivant le courant du judaïsme, il y avait 70 nations païennes ou 72 nations païennes. C'est pour ça que dans certains manuscrits, vous avez 72 et dans d'autres 70. Donc, c'est le nombre des nations païennes dans la compréhension de l'histoire d'Israël. D'accord ? Donc, il en faut un par nation. Alors là, je vous vois rassuré, vous dites, bon, ben, il y a lui, là, c'est pour les Français. Non, 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 c'est pas ça le truc, quoi. Mais ça veut dire qu'il est ouvert au monde entier. Ça veut dire que Jésus veut que les hommes et les femmes du monde entier entendent cette bonne nouvelle. C'est pas réservé aux Juifs, c'est pas réservé au judaïsme, c'est réservé à toutes les nations. C'est pour ça qu'il en faut un pour chacun, quoi. Un pour chacun. Alors, qui sont ces gens, donc un par nation ? Ben, on ne sait pas trop, hein. Disciples, ouvriers, ce n'est pas leur métier. Ce qu'on peut dire, c'est qu'ils sont anonymes. Et vous savez, c'est redoutable, les anonymes. Surtout dans la Bible. Parce que la Bible se plaît à laisser un certain nombre de personnes anonymes. Vous savez pourquoi ? Pour vous permettre de mettre votre nom. Je trouve ça hyper sympa. Vous avez le droit de mettre votre nom. Vous avez le droit de mettre votre photo. Vous ne connaissiez personne ? Ben vous pouvez dire maintenant, si vous voulez, vous pouvez mettre votre photo. Vous avez le droit d'être porteur d'un message extraordinaire. Le royaume des cieux a fait irruption dans notre monde, dans notre réalité. Et j'ai le droit de le dire à ceux qui m'entourent. Et je suis invité à le dire à ceux qui m'entourent. Alors finalement, maintenant, c'est ça qui est le plus difficile finalement. Comment faire ? Alors vous savez, hein, je le redis chaque fois que je viens vous voir parce que vous me l'avez appris. Ventre heureux, visage radieux. Donc la recette maison pour ce matin, c'est quelque chose qui permet de prendre du poids facilement. Comment y aller ? Eh bien, il propose d'y aller par deux, pas tout seul. Pourquoi ? Parce que vous savez ce que c'est le cœur du message de l'Évangile, c'est que Dieu nous aime et qu'il nous invite à aimer les autres. Mais si je suis tout seul, il n'y a que moi que j'aime. Quand on est deux, on doit apprendre à aimer. Et lorsqu'on est porteur d'un message d'amour, il sera bien plus percutant et performant parce qu'il sera incarné dans une réalité. C'est pour ça que Dieu a toujours appelé la communauté. Quand il a reconstitué une histoire pour sauver le monde, il a appelé un homme. Et qu'est-ce qu'il a dit à cet homme ? Tu seras un peuple, tu seras une nation immense. Quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, il s'entourait de 12 disciples. Et puis là, il y en a même 70, 72. La communauté. Parce que ce n'est pas possible de dire l'amour de Dieu tout seul. Parce que l'amour ne se dit pas, il se vit. Et c'est à notre manière de vivre qu'on voit si on est capable d'aimer. Et c'est souvent notre plus grand drame. Vendredi soir, j'avais une réunion. Et puis, j'avais une jeune femme qui nous racontait, ouais, j'étais sur la passerelle, on a une passerelle qui traverse, vraiment. Et puis, sur la passerelle, il y a eu des gens qui faisaient de l'évangélisation. Puis, ça fait plusieurs fois qu'ils font de l'évangélisation. C'est vraiment sympa, quoi. Mais je leur ai dit que j'étais chrétienne. Puis, je dis, c'est super, quoi. Ouais, ouais. Puis, alors, puis, ils m'ont dit, mais viens quand même dans notre groupe de jeunes. Puis, elle me dit, ouais, mais je comprends pas, parce que je leur ai dit que j'étais chrétienne, quoi. Je leur ai dit que. Et alors, malheureusement, on oublie que Dieu, il cherche les gens qui sont perdus, quoi. Et puis, alors, on veut toujours dire, faire notre combine et puis embarquer tout le monde parce qu'on est les seuls qui. Et puis, on oublie qu'il y a une communauté, qu'il y a des hommes et des femmes qui doivent vivre l'amour, puis que la foi, ce n'est pas un discours. La foi, c'est l'expérience du ressuscité dans ma vie, qui transforme ma vie et qui m'aide à apprendre à aimer les autres. L'expérience de la foi, c'est quelque chose qui doit me conduire à sortir de moi, à me tourner vers l'autre. Ce n'est pas un discours. Si je n'ai pas cette sensibilité, je n'ai rien compris. Et finalement, ça devient un mauvais message dont je suis porteur. Je fais une théorie, quoi. Je suis une secte. Je raconte un truc. Qui tient la route ? Qui a sa cohérence ? Mais ce n'est pas ça, l'Évangile. L'Évangile, c'est quelque chose qui se passe. C'est Dieu qui percute ma vie, qui la transforme pour me rendre capable d'être en relation. Alors quand il m'envoie pas seul. Il m'envoie toujours en équipe, par deux. Et puis l'autre grande chose qu'il fait lorsqu'il m'envoie, et je trouve ce texte assez fascinant pour ça, il m'envoie en manque de tout, sans rien. Ce que j'aime pas du tout. Voilà, pour être honnête, je trouve très désagréable d'arriver sans rien. C'est ma culture, mon éducation, j'ai un arrière-plan italien, donc en plus la mama, tu ne viens pas comme ça. Quoi. Non, vous voyez, c'est pas simple. Mais Dieu dit, si tu veux être porteur de bonnes nouvelles pour ceux qui t'entourent, il faut que tu te mettes en manque. Il faut que tu arrêtes de penser que tu as tout. Il faut que tu arrêtes de penser que tu es au-dessus. Il faut que tu arrêtes de penser que tu dois. Il faut que tu apprennes à dire, j'ai besoin de toi. « Attends, mais t'es un païen, toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour quelque chose d'essentiel qui est de vivre. Ben, » c'est ça qui est interpellant. Ne pas manger, ne pas boire, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais normalement, si vous ne mangez pas et vous ne buvez pas, vous mourrez. Voilà, si on ne vous l'a jamais dit, c'est fait ce matin. Donc, c'est interpellant quand même. Jésus leur dit, vous vous mettez dans une situation de crise où vous allez vraiment avoir besoin. Si vous ne mangez pas, surtout dans un pays chaud, si vous ne buvez pas dans un pays chaud, eh bien, vous mourrez. Alors ici aussi, hein, dans un pays froid, c'est la même chose. Mettez-vous en manque. Tu veux aller être porteur, eh bien, mets-toi en manque. Et c'est extraordinaire quand on est en manque, ce que Dieu fait dans les rencontres. En manque de tout. Puis ensuite, il dit « Commence à la maison ». C'est très intéressant chez Luc parce qu'il dit « Tu vas d'abord chez les gens, puis après tu vas sur la place des villes. » Tu commences chez lui. Ouais, mais c'est le plus dur, Seigneur.
Bah ouais.
Pourquoi à la maison ? Eh bien, ça t'oblige à une vraie relation. Si tu vas juste dans la rue en disant « Jésus t'aime », demain, tu ne le vois plus, quoi. En plus, il y a plein de touristes, quoi. Donc, par contre, si tu vas chez lui, qui sait que tu sais son adresse, en général, il connaît la tienne. Jésus aimerait qu'on ait des vraies relations avec les gens qui habitent ce monde et qui sont comme nous, des humains. Et il nous dit, tu veux être porteur de mon message, c'est génial, c'est ce qu'il faut, je t'envoie pour ça, quoi. Mais tu vas chez eux et tu vas leur dire, j'ai faim, j'ai soif. Tu leur dis pas, tu viens chez moi, Tu ne leur dis pas « je vais te donner à manger et à boire » et tu ne leur dis pas « j'ai des tas de trucs à t'apprendre que tu ne savais pas ». Tu commences par leur dire « j'ai faim et j'ai soif, j'ai besoin de toi ». Une fois qu'ils t'auront accueilli, eh bien, tu vas leur dire qu'il y a quelque chose d'extraordinaire qui se passe. Le monde de Dieu a fait irruption dans ton monde. Alors comment encore ? Eh bien, en apportant la paix. Je trouve vraiment ce texte fascinant. Sois porteur de paix quand tu vas chez les gens. Apporte la paix. Ouais, mais t'as vu comment il se comporte ? T'as vu ce qu'il a dit à machin ? Non, mais puis t'as vu où il vote ? Pour qui il vote ? Puis t'as vu comment il est avec... Puis Dieu nous a donné un esprit de discernement qui nous permet de voir le mal chez les autres d'une manière extraordinaire. Et on est capable de les aider et tellement souvent, ils n'en sont pas conscients. Ah ouais. Ben Jésus dit ça, faut arrêter, quoi. Quand tu vas chez quelqu'un, est-ce que tu pourrais juste lui apporter la paix ? La paix. Mais c'est extraordinaire, c'est ce que tout le monde veut, la paix. C'est ce qu'on désire au plus profond de nos vies, la paix. C'est ça dont on doit être porteur. Alors, s'il ne veut pas ta paix, je te permets de secouer les sandales, parce qu'à l'époque, on se baladait qu'en sandales pour enlever la poussière, là. Je ne veux plus rien avoir à voir avec toi. Donc voilà, s'il ne veut pas la paix, c'est son droit, quoi. Mais alors, t'en es libre. Arrête d'insister. T'as fait ta part. Mais sois porteur de paix. S'il ne la veut pas, eh bien que ta paix revienne sur toi. Par contre, s'il t'accueille, eh bien tu sais quoi, et c'est pour ça que j'aime ce que je fais, eh bien tu manges et tu bois. Non mais il est magnifique ce texte. Si on t'accueille, que tu peux apporter ta paix, mais mange et bois quoi. Alors raisonnablement, d'accord, quand même. Mais vas-y quoi. Je trouve que Jésus est extraordinaire dans les choses simples de la vie. Vous voyez, ce n'est pas compliqué, quoi. Donc, je ne dois pas lui faire un catéchisme, vous savez, selon Heidelberg, parce que c'était bon, c'est du solide, quoi. Non, tu n'as pas besoin de faire ça, quoi. Tu t'occupes de manger et de boire. Donc, je peux regarder ce que j'ai dans l'assiette, tu peux regarder ce que tu as dans l'assiette, tu peux prendre le temps de manger, le temps d'échanger, le temps de vivre un moment ensemble. Puis après, comme tu as pris ce temps avec lui, avec elle, eh bien, je te demande de le guérir et de le libérer. Attends, mais je ne suis pas équipé, Seigneur. Bah, si. Non, mais il y a des médecins pour ça, il y a les pharmacies. Non, vous avez raison. Mais vous savez, le monde d'aujourd'hui, il meurt pas simplement à cause des maladies physiques, mais à cause de la maladie de l'âme. Et la plus grande des guérisons qu'on peut apporter, c'est celle-ci. Dieu aimerait tellement qu'on soit conscient que lorsqu'on est porteur de son royaume, on est porteur de guérison pour ces hommes et ces femmes qu'il met sur notre route. Alors, c'est vrai, c'est pas souvent la guérison physique, c'est vrai. Mais même quand il n'y a pas la guérison physique, moi j'ai vu des vies transformées, des vies changées, la paix entrer dans des cœurs, des hommes, des femmes qui se remettent debout, qui étaient courbés par le poids de la vie, parce qu'il y a une guérison qui s'opère qui ne dépend pas de moi. C'est Dieu qui l'opère, parce qu'il les rencontre là où ils ont mal dans leur histoire et dans leur vie. Et alors oui, il y a une guérison, il y a une libération, et qui est magnifique. Alors vous me direz, hein, toujours ce vendredi soir, là, mon copain il me disait, ouais, on priait avec chez sa maman, avec le papa qui est en train de mourir et tout. Puis il me disait, ouais, non, mais Dieu, il change les vies. Hein, j'en suis témoin, je vraiment, quoi. Dieu change les vies. Après, il y a des rechutes. Ben oui. Puis il suçait son machin, vous savez, pour arrêter de fumer. Puis il me disait, c'est pas nocif, hein, il n'y a pas de... Ah, ben ça fait depuis 10 ans, depuis qu'il a 8-10 ans qu'il fume, quoi. Donc pour lui, c'est hyper dur, quoi. Bah, il essaye, quoi. Puis il y a des périodes où ça va bien, puis des périodes où... Voilà, quoi. C'est comme ça. C'est pas parce que Dieu nous touche, qu'il nous remet debout, qu'on n'a pas des temps de rechute et des temps où... C'est pas grave. On est en route avec Dieu. Est-ce qu'il est venu opérer dans notre vie? Eh bien, il va aboutir le jour où on sera dans les cieux avec lui. Mais en attendant, on marche avec lui, et puis petit à petit, transforme, il change. Mais en attendant, Dieu nous invite à ce défi extraordinaire d'être des hommes et des femmes qui guérissent. Et enfin, quand on a guéri et libéré, dites-leur. C'est qu'à la fin qu'il faut dire. C'est dingue, hein, comment y aller? Mais nous, on commence par leur dire. Puis s'ils ne nous écoutent pas, on se dit, de toute façon, c'est tous des... Ils n'en ont rien à cirer. Tant pis pour eux, j'ai fait mon job, quoi. Et Dieu, il ne dit pas ça, quoi. Jésus, il dit, quand tu as fait tout ça, tu dis, le royaume des cieux a fait irruption dans ton monde. C'est pour ça que tu es guéri, c'est pour ça que tu es debout. Parce que le monde de Dieu, il a fait irruption dans ton histoire-là, quoi. Et ça, ça change la vie, ça change le monde. Alors, vous savez, il y a un résultat qui est absolument extraordinaire. Je ne sais pas combien de temps on a maintenant à Pau quand on prêche. À l'époque, c'était une heure et quart. Hein. C'est toujours la même chose. Bon, c'est super, c'est chouette. Hein. Donc, il y a un résultat qui est assez extraordinaire. C'est les disciples qui le disent en rentrant. Hein. Ils ont découvert, en faisant ça, que le nom de Jésus a une puissance extraordinaire. Mais alors là, j'aimerais tout de suite vous rassurer. Hein. Le nom de Jésus, ce n'est pas dorénavant, vous vous promenez dans la rue, vous voyez un problème, vous dites Jésus, pof, puis il n'y a plus de problème. D'accord ? Le nom de Jésus dans la Bible, quand on dit le nom de quelqu'un, c'est l'identité de quelqu'un. C'est-à-dire que le nom de Jésus révèle qu'il est celui qui sauve. Et il est réellement celui qui sauve. Le nom de Jésus, ce n'est pas un nom magique. C'est quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui a un pouvoir et une puissance extraordinaire. Et quand je le sollicite, il met son pouvoir et sa puissance à ma disposition. Mais c'est le sien de pouvoir, c'est sa puissance à lui, c'est pas la mienne. Et c'est son nom qui est extraordinaire. Vous voyez, c'est voilà. Donc la première chose, c'est que ces gens, quand ils risquent à obéir à ce que Jésus leur propose, eh bien, ils découvrent que Jésus est quelqu'un d'extraordinaire. Et je me dis juste que c'est tellement beau parce que c'était déjà des gens qui avaient tout lâché pour faire route avec Jésus. Vous voyez, c'était des gens, ils étaient drôlement avancés spirituellement, si j'ose dire. C'était des gens, ils avaient pris des risques. Puis ensuite, Jésus leur dit de faire un truc comme ça, fou, puis ils le font. Vous voyez, c'est des gens. C'est de la moyenne, quoi. Ben, ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Et ils vont comprendre qui est Jésus en se risquant à faire ce qu'il leur propose de faire. Vous savez pourquoi nos vies ne changent plus? Parce qu'à un moment donné, on sait intellectuellement qui est Jésus. Et on peut faire des cours là-dessus, quoi. Je suis pasteur. J'ai appris. Et on peut faire des cours passionnants. Franchement, il y a des choses hyper intéressantes. Mais ça ne change plus la vie. Hein. J'ai eu le privilège de faire une fac à Genève avec des gars qui étaient des sommités, quoi. Des gars qui étaient profs à Cambridge, qui étaient des gens vraiment... Partout, ils étaient invités. Mais ils pouvaient vous dire des trucs fascinants qui, encore aujourd'hui, m'émerveillent. Mais leur vie ne changeait plus. Parce que Jésus, c'était devenu un lieu d'étude. Et si vous voulez que nos vies changent, si vous voulez que vos vies continuent à grandir dans sa présence, il nous faut nous risquer à mettre en pratique ce qu'il nous invite à vivre. C'est la mise en pratique de notre foi qui nous permet de connaître le nom de Jésus. Donc, ce n'est pas en venant une heure par semaine au culte, à l'étude biblique, ça fait 2 heures peut-être, cours alpha, c'est bien parce qu'il y a le repas quand même, donc 3 heures, que nos vies changent. Vraiment. C'est à partir du moment où je sors de mon confort, de mon habitude, de mon schéma, et que je me risque à faire ce qu'il m'invite à faire, c'est-à-dire rencontrer les hommes et les femmes qui marchent sur cette terre, me rendre disponible pour eux, apprendre à dépendre d'eux, ce qui est un peu désagréable, et à manger chez eux. Et à me risquer à être porteur pour eux d'une parole de libération et de guérison de sa part. Alors ma vie est transformée. Alors je comprends qui est Jésus. Et ce n'est plus un concept. Et alors, le second fruit de leur mission, qui est assez extraordinaire et qui me plaît beaucoup, il y a un résultat qui est encore plus beau, c'est la joie. Et ce texte se conclut avec cette affirmation qu'ils étaient dans la joie, si vous allez à la fin du texte, c'est magnifique. Il y a la joie qui vient là. Alors, non seulement ils connaissent qui est Jésus, puis il y a la joie qui remplit leur cœur. Alors, au niveau résultat, c'est un peu maigre. C'est-à-dire, vous ne savez pas combien il y en a qui ont dit oui, vous ne savez pas combien il y a eu de guérison, vous savez pas. Statistiquement, ce n'est pas bon. D'accord ? Mais au niveau du vécu, c'est extraordinaire. Au niveau du vécu quotidien avec mon Dieu, c'est extraordinaire. Parce que sa joie habite mon cœur, parce que je le connais et parce que je vis quelque chose avec lui. Alors, en conclusion, Jésus envoie ces hommes, ces femmes, peut-être, ça doit être plutôt des hommes quand même, dans un terrain qui paraît difficile. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est que quelque part, en les envoyant, il leur dit aussi « la victoire est acquise ». Vous ne partez pas dans le champ du monde en vous disant « aïe, 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 je vais m'en ramasser plein les dents ». Alors oui, vous allez, mais en même temps, la victoire est acquise. Vous êtes vraiment porteur d'un message extraordinaire. Vous êtes vraiment porteur d'une bonne nouvelle, comme nous l'a rappelé Eric. Vous êtes vraiment porteur du royaume de Dieu. Réellement. C'est vrai. Et tout est donné. Même votre pas est prévu. Tout est donné. Les compétences, vous les avez. Le repas est prévu, le chemin est ouvert. Tout est acquis. Et c'est le temps. C'est le moment propice. C'est le temps. C'est Jésus qui le dit. Il dit, il y a un seul problème, c'est que c'est le bon moment, mais il manque un truc. Et c'est pour ça que je suis là ce matin, pour vous le rappeler. Ce qui manque, c'est les ouvriers. Alors là, je sens un poids de culpabilité qui vous tombe sur les épaules. Ce n'est pas le but. Et j'aimerais vous libérer de ça, parce que ce n'est pas ce que Jésus a fait. Ceux qui sont partis, c'est ceux qui ont entendu et qui ont eu envie de se risquer. Ils n'étaient que 70, 72. Peut-être qu'ils auraient été plus, mais on a peut-être trouvé que 70 et 72 déjà, alors qu'il était là, quoi. J'en sais rien. Mais il dit qu'il est temps et que le temps manque. Juste avant Noël, j'étais appelé au téléphone par des gens qui m'ont dit « Écoutez, monsieur le pasteur, voilà, il y a notre oncle qui est mort, hein, et puis il faudrait faire un service funèbre. » Je dis « Ouais. » Puis il est protestant. « Ouais. » Et il est bien mort. « Ouais. » Et alors, vous voulez que je fasse quoi ? Il n'allait pas dans une communauté. Non, il n'allait pas dans une communauté. C'est un monsieur qui était dans le grand banditisme et qui a passé sa vie en prison. Donc, il a fait les 10-15 dernières années de sa vie hors de prison. Et il a dit juste une chose à sa famille quand il est sorti de prison. « Je suis devenu chrétien en prison. Je suis devenu protestant. » Alors, à cause de mon histoire, je présume, je n'irai jamais dans une église. Il faut porter tout ça, quoi. Mais le jour où je meurs, je veux que vous entendiez un pasteur. C'est pour ça qu'elle me téléphonait. Alors, pourquoi moi ? Mais à cause de Julien, qui vous salue tous bien. Julien, c'est mon copain patron de bistrot que vous avez connu pour plusieurs d'entre vous, voilà, qui est pétillant de vie, qui a vécu un chemin avec Dieu extraordinaire, qui a encouragé ma foi et qui l'encourage encore aujourd'hui. Et Julien, il faisait, quand il avait son café, il faisait des repas pour les entreprises en fin d'année. Et la femme qui appelait, c'était une cliente qui avait eu un repas de fin d'année dans son bistrot. Et donc on s'est rencontrés pour en parler. Et puis elle me dit, ouais, vous savez, non, Julien, c'est un phénomène, quoi. Ce repas de fin d'année, il nous a collé des cantiques. Alors, en arrière-plan, alors il ne mettait pas que des cantiques. Hein. Ce n'était pas du tout oppressant, ce n'était pas gênant, c'était agréable. Hein. mais il vivait un truc avec Dieu. Alors, quand mon tonton il est décédé, je lui ai téléphoné à lui pour lui dire, dis donc, Juju, tu connais pas quelqu'un qui pourrait... T'as l'air chrétien, toi. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec un service funèbre juste avant Noël, un monsieur qui est là, qui est juste plus là, quoi. Et puis une famille qui ne met jamais les pieds à l'église, mais qui a entendu comme dernier désir de cet oncle, de ce frère, qui a fait de la prison parce qu'il a fait plein de choses pas bien et était vraiment des trucs pas chouettes, quoi. Mais qui a rencontré le Christ et puis qui a voulu que pour sa fin de vie, il y ait une parole qui soit dite, qui vienne de la Bible. C'est pour ça qu'il fallait que ce soit un protestant. Ils m'ont offert à boire après. Hein. Quand même. Hein. Vous voyez, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire, il y a un manque d'ouvriers, il y a le temps qui est propice. Mais les hommes et les femmes que Dieu aime et qu'il cherche ne sont pas forcément là où ils devraient être, si j'ose dire. Et alors, Jésus dit, il manque des ouvriers, il y a un truc que vous devez faire parce qu'il manque des ouvriers, c'est prier. Prier pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans la moisson. Et je trouve ça très déculpabilisant pour nous. Parce que ce matin, vous vous êtes dit, pétard, il faut que j'y aille moi aussi. Ben non. Vous avez le droit de ne pas y aller. Mais il vous faut prier. Et vous savez ce que c'est, prier ? C'est se mettre à l'écoute de Dieu. C'est pas dire des choses à Dieu d'abord. Normalement, la vraie prière, c'est un moment où j'ouvre ma vie et je dis, Dieu, si tu veux, tu peux parler dans ma vie, quoi. Et puis, ça devrait être un temps d'échange entre Dieu et nous. Alors, le danger, quand on entre dans ce genre de dynamique, c'est que Dieu peut dire à un moment donné, « D'ivoire, mais tu as peut-être les compétences, quoi. » Donc, c'est juste ça, soyez prudent quand même. Donc, voilà. Il nous invite à prier, ce qui est très déculpabilisant. Et en même temps, il nous dit, « Voilà, si tu pries vraiment, peut-être qu'il va te dire, « Dis donc, tu sais que tu as tout ce qu'il faut pour. Tu sais que tu es équipé. » Alors, pour conclure ma conclusion, j'aimerais nous rappeler qu'il ne faut pas nous tromper de message. Le message de l'Évangile est quelque chose de tellement simple. Le royaume des cieux a fait irruption dans notre monde. En Jésus-Christ, ce royaume est accessible pour nous aujourd'hui. Et puis enfin, dans la prolongation de ce message, ne pas nous tromper de joie. Et je vous laisse avec cette dernière question. Qu'est-ce qui fait votre joie dans votre vie ? Sachez qu'il y a une joie extraordinaire qui est donnée quand on se met en route et qu'on va là où Dieu nous appelle. Amen.